Bien, alors, une des conséquences du réveil de Genève, histoire de l'Église, hein, 19e siècle, donc une des conséquences du réveil de Genève, c'est le réveil des vallées vaudoises. Et ça, c'est le résultat de l'apostolat d'un homme qui se convertit dans la mouvance du réveil de Genève, Félix Neff. En fin de compte, on se rend compte que beaucoup de ces réveils du 19e, qui ont touché la France, et du 20e siècle aussi d'ailleurs, si on prend le réveil des brigadiers de la Drôme, n'est-ce pas, ont été amenés depuis la Suisse, par justement des Suisses qui sont venus évangéliser la France. Bon, et le réveil donc de Genève entre aussi dans ce contexte-là. Il y avait donc ce réveil qui avait éclaté, nous l'avons vu en 1816, sous la direction donc des frères Aldan, qui étaient venus d'Écosse à Genève et qui avaient amené un certain nombre de jeunes étudiants en théologie ou de jeunes étudiants tout court d'ailleurs, à se convertir et à leur tour à se faire les instruments du réveil en Suisse romande et en France. La Suisse romande, en particulier, a été marquée par le réveil du début du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et ce qu'on appelle les églises libres là-bas, ça veut dire des églises qui ne sont pas des églises d'État, subventionnées par l'État, comme le sont par exemple ce qu'on appelle l'Église nationale, souvent réformée, sont des églises qui sont nées dans la mouvance et dans les conséquences du réveil du début du siècle. Alors, parmi les principaux, les jeunes gens qui se rassemblaient donc pour écouter les frères Aldan dans une petite chambre d'étudiants à Genève, on trouvait des gens comme César Malan, Grossen, Merle d'Aubigné, qui était donc descendant d'Agrippa d'Aubigné, Frédéric Monod, Ami Bost, dont le fils devait créer les asiles donc de la Force, et puis Henri Pitt. Il y avait aussi donc un certain Charles Cook qui était venu d'Angleterre, qui lui aussi donc appartenait à cette équipe qui essayait de propager le réveil dans la région de Genève. Félix Neff va être touché par l'intermédiaire justement de ce réveil et il va devenir un authentique évangéliste. Il a un ministère d'évangéliste au sens d'Éphésiens 4 du terme et il va avoir le fardeau de la France. C'était une époque extrêmement difficile parce que nous sommes ici à l'époque de la Restauration, après la chute de l'Empire de napoléonien. Par conséquent, 1816, c'est l'année où la page est définitivement tournée. Un an avant, c'était Waterloo, donc Congrès de Vienne, le nouvel ordre européen qui sort du Congrès de Vienne, et par conséquent la Restauration en France. Donc, nous sommes ici dans un État qui est redevenu en principe catholique et intolérant. Et bon, même si, n'est-ce pas, Charles X est obligé de tenir compte de la réalité protestante et il ne va plus évidemment persécuter les protestants comme l'avaient fait ses ancêtres. Et en fin de compte, n'est-ce pas, il y a une certaine tolérance de fait qui s'impose, mais il y a une interprétation de plus en plus restrictive qui est donnée, si vous voulez, de ce qui avait été notamment le Concordat, c'est pas donné par Napoléon, et la perspective notamment de voir des évangélistes étrangers venir en France, évidemment, se heurte à toutes sortes de tracasseries administratives. Et Félix Neff essaiera pendant des années, luttera pour obtenir une reconnaissance officielle qu'il aura le plus grand mal à obtenir, n'est-ce pas ? Et notamment, justement, on commence par lui refuser son passeport, tout simplement parce que il n'est pas ordonné dans une église reconnue par le gouvernement français. Et il ne peut pas obtenir non plus cette ordination parce que justement, il appartient à ce courant du réveil qui n'est pas non plus bien vu par les églises réformées françaises. Il n'a pas donc non plus de formation théologique, qui lui permettrait d'obtenir cette ordination. Et finalement, il n'en éprouve pas le besoin. Et de fait, il n'en a pas besoin, car il a été formé à l'école de Dieu, qui vaut toutes les facultés de théologie du monde, et il aurait bien des choses à apprendre au soi-disant professeur de théologie. Mais le gouvernement français exige une telle reconnaissance, et finalement, de guerre lasse, n'est-ce pas, Félix Neff va devoir donc obtenir un diplôme de théologie. Et pour cela, il va se rendre à Londres. C'est à Londres, n'est-ce pas, qu'il va faire des études de théologie. Ce qui n'empêchera pas d'écrire par la suite aux jeunes qu'il aura formés que, bon, bah, il est malheureusement, les lois étant ce qu'elles sont, il est obligé d'envoyer ces jeunes à la faculté de théologie. Mais il leur rappelle que ils sont là uniquement pour décrocher un diplôme. Et non pas pour se former, et que au contraire, là, il risque de se faire déformer, et qu'il soit extrêmement vigilant vis-à-vis de l'enseignement qu'il leur est donné, et qu'ils sont là strictement pour arracher le diplôme, point, c'est tout, pour avoir en quelque sorte la licence de prêcher, parce que c'était ça, le gouvernement français exigeait une telle licence pour pouvoir laisser ces gens-là prêcher. Félix Neff va devenir un homme de foi, un grand, grand homme de foi, n'est-ce pas? Et pour lui, ce qui est primordial, c'est la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. Et c'est une époque où déjà dans les églises réformées, tant suisses que françaises d'ailleurs, n'est-ce pas, on commence à introduire petit à petit une notion de spectacle, n'est-ce pas, n'est-ce pas, un sens artistique. Les sermons doivent souvent, n'est-ce pas, le prédicateur fait de ses sermons de véritables essais littéraires, mêlant de la poésie, parfois de la poésie de son cru, n'est-ce pas. Et alors, c'est plus au niveau des sens, au niveau de l'esthétique. Et ça, c'est quelque chose que Félix Neff va combattre avec la plus extrême énergie, n'est-ce pas, pour lui. Prédication de la parole, prêche la parole, point. Bon, qui est Félix Neff? Félix Neff est un homme d'origine zurichoise, c'est-à-dire un Suisse-allemand, si vous voulez. Il est né le 8 octobre 1797 à Genève, mais de parents qui étaient venus de Zurich, si bien que, si vous voulez, il a la double formation, à la fois donc celle de Suisse-allemand et de Suisse-roman. Et son père va mourir très jeune, pendant que, en tout cas, à l'âge où lui, Félix, est très jeune. Il meurt à Paris, d'ailleurs. Et c'est sa mère qui va avoir la responsabilité de son éducation. Très jeune, Félix Neff est attiré par les choses de Dieu. Et très jeune, il manifeste une grande intelligence. Et puis, un tempérament qui est d'une droiture absolue. Ça, c'est quelque chose qui ne le quittera jamais pendant toute sa vie, n'est-ce pas ? Il ne ment pas, il ne jure pas, il ne prononce pas de mauvaises paroles. Et c'est un garçon, en quelque sorte, exemplaire. À 13 ans, il entre apprenti fleuriste et jardinier, pour se former, donc. Et en même temps, comme c'est un garçon intelligent, mais sa mère, qui est veuve, n'a pas beaucoup de moyens, donc ne peut pas lui payer d'études. Alors, il étudie le soir, après son travail, avec un pasteur, le pasteur Dioclétie, et notamment le latin. Il va devenir un latiniste extrêmement érudit. Et, par exemple, à l'âge de 16 ans, il achète des ouvrages de latin, n'est-ce pas, pour étudier le soir le latin lui-même, en plus de ce qui lui est fait et en plus de son travail, donc de la culture des arbres fruitiers. Il se fixe dans une petite ville qui s'appelle Lancé, et là, eh bien, il fréquente l'église du lieu, mais il n'a pas encore fait de véritable expérience avec Dieu, bien qu'étant quelqu'un qui est attiré par les choses de Dieu, il n'a pas encore fait l'expérience décisive de sa vie. Bon, finalement, la culture des arbres fruitiers, ça le passionne modérément, et en fin de compte, il s'engage dans l'armée. L'armée suisse, qui est une armée de métier uniquement à cette époque-là, il n'y a pas encore la conscription qu'il y a aujourd'hui, et il va obtenir dans l'armée le grade de sergent artilleur. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à étudier, et il a deux auteurs favoris, Plutarque Et Jean-Jacques Rousseau, qui évidemment à cette époque-là est aussi très populaire, notamment dans les milieux protestants de Suisse romande. Bien qu'étant amené très jeune à rechercher les choses de Dieu, Félix Neff voit autour de lui un christianisme qui est loin de le satisfaire et même qui le déçoit profondément. C'est en effet l'époque où, avant le fameux réveil de 1816, il y a un affadissement certain de la foi, surtout en Suisse romande. Et une des prières que Félix Neff ne cesse d'adresser à Dieu est celle-ci. « Ô Dieu, qui que tu sois, fais-moi connaître ta vérité. » Et c'est évidemment ce genre de prière que le Seigneur entend, comme on le voit dans la parole de Dieu. Genève est en pleine débine sur le plan religieux, on peut le dire, n'est-ce pas? Et il y a déjà des tentatives de réformer la foi véritable qui se manifeste ça et là et qui vont justement préparer le réveil de 1816 de telle sorte que quand les frères Haldane arriveront d'Écosse, ils trouveront déjà donc des gens qui sont dans une attente, n'est-ce pas, de quelque chose d'autre, hein. Et dans le fond, Félix Neff est de cela. Et notamment, il existe une église libre, une église indépendante, c'est-à-dire qui ne dépend pas de l'État, qui se trouve située à Bourg-de-Fourvière, et qui est une église où on prêche l'évangile véritable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle n'est pas reconnue par l'État, et elle est même attaquée par la vénérable compagnie des pasteurs de Genève, qui font la loi sur le plan religieux, justement, dans le canton de Genève. Et très souvent, au sortir des cultes le dimanche matin, au sortir des cultes de cette église, les pasteurs, voire même les fidèles, sont pris à partie par des protestants libéraux et il s'ensuit des bagarres. Ça peut paraître tout à fait déplacé, tout à fait étonnant, mais c'est ainsi. Et en tant que membre de l'armée, Félix Neff est expédié parfois par ses supérieurs pour faire un service d'ordre à la sortie du culte, n'est-ce pas, séparer les combattants et puis mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Tant et si bien que Félix Neff entre en contact par ce moyen-là, justement, avec cette tendance du réveil, en quelque sorte, qui se manifeste là, à ce moment-là. Mais à cette époque-là, il est du côté des défenseurs de la loi et il prend parti contre le réveil, qu'il ne connaît pas véritablement. Et c'est alors que, peu de temps après, le réveil éclate véritablement avec l'arrivée des frères Haldane. Et bien évident que la chapelle du bourg de Fourvière est une des premières églises à entrer à fond dans le réveil. Et évidemment, l'agitation dont elle est le centre, cette église-là, augmente de plus en plus, les bagarres sont de plus en plus nombreuses, les controverses sont de plus en plus nombreuses, et on peut dire que finalement, le réveil provoque à Genève une véritable crise spirituelle dans le canton de Genève dans son ensemble. Et alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, etc. Et c'est alors que se produit un événement décisif dans la vie de Félix Neff, le 7 juillet 1818. Il se trouve avec deux jeunes qui sont touchés par le réveil, l'un s'appelle Gontier et l'autre Olivier. Il se trouve dans l'arrière-boutique du père d'Émile Gers. Émile Gers qui lui aussi va être un de ceux qui va se convertir, n'est-ce pas, dans ce mouvement du réveil, qui écrira d'ailleurs ce livre avec une vision prophétique que nous avons là dans la bibliothèque, je crois, sur la destinée d'Israël, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Et là, donc, ils discutent du réveil. Or, il se trouve que les trois jeunes gens, donc Gontier, Olivier et Émile Gers, viennent de se convertir au contact de César Malan, donc un des propagandistes du réveil qui s'est converti, lui, quelque temps plus tôt avec les frères Haldane. Et là, donc, les trois amis de Félix Neff ouvrent la parole de Dieu et lui montrent finalement que la Bible et le Saint-Esprit sont les seules autorités véritables en matière de foi et que par conséquent, il faut accepter ce que la Bible enseigne. Et ce soir-là, donc, Félix Neff se convertit. se convertit véritablement. Et finalement, ce qu'il a découvert ce soir-là, c'est-à-dire que les seuls professeurs de théologie, dira-t-il, sont la Bible et le Saint-Esprit, et la nature, il ajoute la nature, n'est-ce pas? Et finalement, pendant tout le reste de sa vie, dira-t-il, j'ai étudié ces trois livres, la Bible, ce que le Saint-Esprit disait à mon cœur, et puis finalement, la nature. Et Émile Gers, qui était donc un ennemi Félix Neff, qui était un ennemi du réveil, va maintenant devenir un des membres de la chapelle du Bourg, n'est-ce pas? Et il organise lui-même, d'ailleurs il commence à prêcher, il organise lui-même des assemblées d'appel où il invite les gens à se convertir. Le 5 mars 1819, il termine son contrat à l'armée. Et il décide de ne pas le renouveler. Il comprend évidemment que son engagement chrétien l'amène à s'éloigner de l'armée, où il a d'ailleurs été fort bien noté. Et il va donc chercher du travail. Entre-temps aussi consacrer tout son temps, c'est pas tout son temps libre, aux choses de Dieu, à l'Évangile. Et notamment, à partir de 1820, il prend une part très très importante à la construction de la chapelle qui sera construite pour justement accueillir tous les nouveaux convertis qui se sont convertis pendant cette période-là, à la suite du témoignage de César Malan en particulier. Et là, il commence à prêcher l'Évangile, à rendre témoignage dans différents endroits de Suisse. Il se rend à Neuchâtel, puis dans le Jura bernois, puis à Bâle, comme il est bilingue, n'est-ce pas? Et là, il prêche l'Évangile, il prêche le réveil qu'il a découvert, malgré l'opposition, surtout de la part des pasteurs de Genève, qui le poursuivent de sa vindicte. Il se rend ensuite dans un village où Ami Bost, un de ses amis, a été pasteur, et il décide de s'installer dans ce village et de créer une société à la manière morave. Si vous voulez, le réveil morave devient un petit peu pour eux une norme. Il y a déjà dans ces endroits-là des petites diasporas moraves qui ont essaimé. Et il pense là pouvoir donc créer un petit peu ce qu'avait été la vision des Moraves, Ecclesiola et Inecclesia, des petites églises en quelque sorte dans la grande église. Un des thèmes principaux de la prédication de Félix Neff, comme d'ailleurs des gens du réveil de Genève, c'est l'attaque contre la mondanité, n'est-ce pas ? Une vie sainte, une vie pure, une vie consacrée au Seigneur. En novembre 1820, il se rend à Berne, et puis en janvier 1821, à Neuchâtel. En mars, il revient à Genève, où il remplace dans la chapelle du Bourg Émile Gers et Cochamp, qui sont partis en Angleterre pour se former, justement, pour obtenir aussi les fameux diplômes qui sont nécessaires tant en France qu'en Suisse, justement, pour pouvoir être reconnu prédicateur officiel. On n'a pas le droit, l'État interdit, n'est-ce pas, que l'on prêche si on n'a pas eu une ordination officielle, même si l'on n'est pas dans une église qui dépend d'État, quoi, en quelque sorte. Et donc, il va avoir un grand impact pendant tout ce temps où il prêche à Genève. Et en septembre, alors, il quitte la Suisse. Et là, petit à petit, va venir dans son cœur le fardeau pour la France. En effet, à Grenoble se trouve un certain pasteur César Boniface qui a besoin d'un jeune stagiaire, en quelque sorte, pour le remplacer durant quelques mois. Et il fait appel à Félix Neff pour ce faire. Félix Neff accepte et il va se rendre donc en France, à Grenoble, pour se trouver alors là dans une situation extrêmement difficile qui va être tellement décevante pour lui que il va tomber dans une véritable dépression parce qu'il se rend compte qu'il a affaire à des gens qui sont complètement assoupis, complètement endormis et qui ne veulent absolument pas du message du réveil. Pourtant, le terrain a été préparé par un missionnaire wesleyen qui est passé quelque temps auparavant et qu'il rencontre. Et finalement, ce missionnaire wesleyen met dans son cœur l'idée que peut-être, n'est-ce pas, il pourrait être amené à parcourir la France pour y propager le réveil de Genève. Finalement, c'est la vision qu'a ce missionnaire qui s'appelle Cook. Et finalement, cette vision, il parvient à la faire partager à Félix Neff. Et c'est ainsi que, en décembre, Félix Neff quitte Grenoble, il revient à Genève, mais de là, il décide de quitter définitivement la Suisse pour aller évangéliser la France. Et sa première mission, ses premiers travaux en France, auront pour base Mans. Le 28 décembre 1822, il se rend donc à Mans pour commencer un travail là-bas avec le pasteur du lieu. Et c'est ainsi qu'il va provoquer, en 1822, un réveil à Mans. Il s'y attend, il prie pour cela, il croit que vraiment le Seigneur veut intervenir et il commence à prêcher le réveil. Il commence avec les jeunes, notamment les jeunes catéchumènes. On est dans le cadre ici d'une église réformée, n'est-ce pas? Et donc, il presse les jeunes catéchumènes à faire une véritable expérience avec Dieu, une expérience de conversion et rencontrer le Seigneur véritablement. C'est dur, très très dur, parce que les jeunes ne sont pas habitués à ce message-là et ils sont fermés pendant tout un temps à cette prédication qui leur est faite. Et c'est ainsi que, finalement, le pasteur en titre se rendant compte que Neff, enfin, vraiment un ministère pour les jeunes, décide de le décharger de toutes les autres tâches et de lui demander de s'occuper uniquement, n'est-ce pas, du catéchisme des jeunes. Et c'est ainsi qu'au début de l'année 1822, pour essayer de dépasser un petit peu ce blocage qu'il voit au sein de ces jeunes, Félix Neff crée une école de musique. Il est en parfaite harmonie, je veux dire, avec le pasteur de l'endroit, qui se nomme le pasteur Blanc. Alors que le réveil n'est pas encore là, n'est-ce pas, il est dénoncé par des parents de catéchumènes jaloux et qui trouvent que finalement Félix Neff trouble leurs enfants en leur parlant de l'enfer, en leur parlant de choses comme ça. Il est dénoncé à Paris au siège central de l'Église réformée. Félix Neff est convoqué pour s'expliquer sur sa conduite, n'est-ce pas, et devant le consistoire en particulier. Et Neff, donc, doit se rendre à Paris pour s'expliquer. Et voilà que pendant son absence, le réveil éclate. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Et quand Félix Neff revient entièrement justifié, n'est-ce pas, de Paris, il trouve le réveil en plein essor, en pleine expansion, n'est-ce pas? Des jeunes se sont convertis et se sont véritablement tournés vers le Seigneur. Et là, des jeunes, le réveil gagne les parents, les adultes, et c'est toute l'église de Mans qui est touchée. Alors, Félix Neff souffle l'huile sur le feu, bien entendu, et le feu du Saint-Esprit. Et il commence avec ses jeunes des grandes distributions d'évangiles, du Nouveau Testament, y compris aux catholiques d'ailleurs, auxquels très adroitement, il distribue des exemplaires du Nouveau Testament de Lemestre de Sacy, qui est donc la version catholique officielle de l'époque du Nouveau Testament, de telle manière que précisément, il ne prête pas le flanc à des attaques de la part des catholiques, quoi, hein. Parce que nous sommes encore une fois dans la période de la Restauration et il s'agit d'être extrêmement prudent. Félix Neff, dans son voyage à Paris, s'est vu reprocher devant les instances d'Église réformée de ne pas être officiellement consacré pasteur. Et lui a demandé là-bas de se former sérieusement parce qu'on estime que la formation qu'il a n'est pas une formation sérieuse. Encore une fois, Félix Neff, comme il l'a dit lui-même, a vraiment une formation par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu et par la nature qui est largement suffisante. La preuve en est, c'est que précisément par lui, le réveil est venu, alors que ces gens qui sont bardés de diplômes de théologie n'ont pas pu amener beaucoup d'âmes au Seigneur, lui, en l'espace de quelques mois, il l'a fait. Donc le Seigneur vraiment le justifie, mais voilà. Les choses sont ainsi faites. Et finalement, la mort dans l'âme, Félix Neff accepte de quitter Mans et de quitter le réveil, n'est-ce pas, pour aller se former à Londres. C'est à Londres, il a jeté son dévolu sur Londres. Il se rend donc dans l'église indépendante d'Angleterre, Il sera à Paris en 2 jours de diligence, à cette époque-là, n'est-ce pas? Il faut 2 jours pour aller de Mans à Paris. Puis, de là, il se rend à Calais, où il arrive le 8 mai à Londres. Et là, il demande donc la consécration dans l'Église d'Angleterre qui lui est accordée. Le 20 mai, il est donc de retour à Paris. Et là, il y pense que maintenant, ses ennuis sont finis. Hélas, hélas, c'est compté sans l'œuvre du diable, n'est-ce pas? Et un certain pasteur Roux, dès son retour de Paris, le dénonce aux autorités civiles comme un suppôt des Anglais, parce qu'il a donc été consacré par des Anglais. Alors, vous vous rendez compte? Voilà, un Suisse consacré par des Anglais qui vient prêcher l'Évangile aux Français. Mais on aura tout vu, quoi. C'est pas possible. Et donc, le pasteur Roux le laisse supposer aux autorités que, en fin de compte, Félix Neff est un agent secret anglais camouflé en pasteur, parce que on ne peut pas être pasteur si on n'est pas consacré par une église française. Voilà, en gros, c'est l'argumentation. Et on avertit Neff que les choses sont si graves que un guet-apens lui est tendu pour le tuer, rien que ça, s'il revient à Mans. Alors, il en faut plus pour impressionner Félix Neff, et il revient quand même. Il est reçu avec enthousiasme dans cette paroisse de Nantes, de Mans, où le réveil continue à battre son plein. Mais il y a toute une effervescence autour de sa personne, n'est-ce pas ? Qui est-il vraiment ? Le doute a été semé dans les cœurs. Et finalement, même dans la paroisse, il y a division au sujet de Neff. Et Neff, comme un homme de Dieu véritable, a dit « c'est comme ça, je me retire pour que le tumulte s'apaise ». Et donc, fin août 1823, il quitte Mans, mais le réveil qu'il a allumé continue à brûler dans le pays. Et pendant 7 mois, donc, Félix Neff va avoir un ministère itinérant. Il va visiter des églises à droite à gauche pour y prêcher le réveil. Et c'est alors qu'il décide d'évangéliser les régions qui sont proches de la Suisse, la région des Hautes-Alpes en particulier, qui est une région sous-évangélisée, pour des raisons faciles à comprendre. C'est que à cette époque-là, en particulier, ce sont des régions qui sont quasi inaccessibles. Il n'y a pas de route tracée comme aujourd'hui, il n'y a que des petits chemins montagnards, et fort peu d'évangélistes, évidemment, se sont aventurés dans ces régions-là. Et c'est alors que Félix Neff va avoir le fardeau, justement, de la région des Hautes-Alpes, et qu'il décide donc de consacrer sa vie à évangéliser toute cette région-là. Il se rend à Grenoble, et il y reste quelque temps. Il connaît Grenoble déjà, puisqu'il pourrait y avoir passé déjà son premier stage, nous l'avons vu tout à l'heure. Et le 9 octobre 1823, il se rend à Chazlitt, qui est le hameau le plus haut d'Europe, où il va commencer donc un travail d'évangélisation. Là, il trouve des familles protestantes, quelques familles protestantes dans ce village-là, mais qui ne sont pas converties, qui sont des protestants sociologiques, des protestants de nom. Et là, malheureusement, il a beau être dans une région perdue et loin de tout, la vindicte des autorités civiles le poursuit, et le sous-préfet de Briançon lui interdit de remplir des fonctions de pasteur dans ce village et dans toute cette région parce qu'il est étranger. Alors, Félix Neff dit, bah, puisque c'est ça, il n'y en a pas tant que ça, je vais demander à être naturalisé français. Si le fait d'être étranger nuit à mon apostolat, mon ministère, eh bien, je vais demander à être naturalisé français. Alors, il dépose une demande de naturalisation, mais évidemment, là, les choses vont traîner des années et des années avant qu'il ne soit naturalisé. Et en fin de compte, sa situation dans ce domaine-là ne sera véritablement jamais entièrement régularisée. Félix Neff a aussi devant les yeux un exemple qui pour lui est une source d'inspiration, c'est Oberlin. Oberlin dont nous avons parlé, qui a entrepris un intense travail spirituel, mais également aussi un travail, comment dirais-je, à la fois social, économique, etc., développant toute la région du banc de la Roche dans laquelle il se trouvait. Et Félix Neff, quand il arrive dans les Hautes-Alpes, se rend compte aussi que là, on a affaire à un pays très frustre, très, très peu évolué, très peu avancé sur le plan économique, sur le plan social, etc. Et que finalement, le travail qui est effectué et effectué là est essentiellement, bien sûr, un travail spirituel, d'évangélisation, mais qui ne peut pas non plus se désintéresser des corps et que finalement, il doit faire le même type de travail que celui qu'au Berlin a effectué au banc de la Roche. Et donc, Félix Neff va se mettre au travail dans ce domaine-là. Il s'établit dans la vallée de Fraissinières, au village de Dormihouse, qui a subi autrefois l'influence vaudoise. Et d'ailleurs, les protestants qui sont là sont un peu les descendants de ces influences-là et de cette évangélisation. Mais malheureusement, tous ces protestants qui se trouvent dans toutes ces régions-là ne sont que des protestants sociologiques qui ne connaissent pas la véritable conversion. Et il va donc se trouver là à la tête d'une immense paroisse, dispersée donc dans des hautes montagnes. Et il va falloir que cette paroisse, il la desserve à pied, bien entendu. Il n'est pas question d'avoir d'autres moyens de locomotion que celui-là. Et pendant 4 ans, Félix Neff ne couchera pas 5 nuits dans le même lit, allant de lieu en lieu constamment. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il va faire vœu de célibat, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas envisager d'avoir une famille dans des conditions aussi rudes, n'est-ce pas ? Il vit dans des conditions véritablement spartiates, qui vont d'ailleurs détraquer sa santé et qui vont faire qu'il va mourir très jeune, parce que précisément, là, il ne s'est pas du tout ménagé, mangeant n'importe quoi, dormant dans des conditions, tout ce qu'il y a de plus rudimentaire, marchant dans la neige, dans le froid, attrapant la fièvre, etc. Enfin, il ne se ménage absolument pas. Il se donne à fond à cet apostolat-là. Et évidemment, ça va être quelque chose d'extrêmement dur. Dès son arrivée dans la vallée de Fraissinières, il commence, comme il avait fait à Mans, à s'occuper des jeunes. Il pense que c'est par les jeunes que le réveil doit venir et il rassemble donc les catéchumènes comme il avait fait à Mans. Mais là, il se rend compte que l'ignorance de la Bible est absolument effrayante chez ces jeunes-là. Ils sont vraiment protestants, de nom uniquement, mais ils ne connaissent absolument rien de l'Évangile, absolument rien de la Bible. Alors, Félix Neff commence à enseigner, à prêcher, n'est-ce pas ? Il prêche, comme dit l'apôtre Paul, en temps et hors de temps, souvent dans les étables, n'est-ce pas ? C'est les lieux les plus appropriés pour rassembler un petit peu de monde. Et donc là, il se dépense sans compter pour faire connaître un petit peu, minimum, les bases de l'Évangile à cette population si frustre. Et c'est alors qu'en 1824, il a la douleur d'apprendre que sa demande de naturalisation lui est refusée. Et par conséquent, là, son ministère, eh bien, il l'accomplit d'une manière totalement illégale et totalement clandestine, en contradiction avec les instructions du préfet de Briançon. Et Félix Neff, donc, n'en a cure, il passe outre, bien sûr, et il décide de construire un temple à Fraissinières. Fraissinière, qui sera le centre, en quelque sorte, le point de ralliement de toute l'œuvre qu'il veut entreprendre. Et c'est ainsi que, c'est pas véritablement lui qui le fait construire, ce temple-là, mais enfin, c'est lui qui, le 2 août 1824, l'inaugure. Et après l'avoir achevé, après l'avoir, il était déjà en construction quand il est arrivé, mais là, il l'achève. D'autre part, Félix Neff a toujours accordé beaucoup d'importance à l'éducation des enfants et des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle il va, comme l'avait fait au Berlin d'ailleurs, installer notamment à Dormihouse des écoles pour les enfants, puis des cours du soir pour les adultes. Et là, il reprend à fond ce qu'avait fait au Berlin au banc de la Roche. Et puis même, toujours comme au Berlin, il va créer une école normale pour former les instituteurs. Il va refaire une courte visite en novembre-décembre 1824 à Mans, où il est reçu avec joie par ses anciens paroissiens. Il a la joie de voir que le réveil s'est poursuivi là-bas. Et après cette courte visite, il revient donc dans les Hautes-Alpes. Là, il trouve les choses à peu près comme il les avait laissées. Les choses sont encore loin d'être ce qu'il aurait voulu qu'elles soient. Et il va s'attacher plus particulièrement à évangéliser la région d'Arvieux. Et c'est alors que, en cet hiver 1825, les premiers frémissements du réveil commencent à se faire sentir dans la vallée de Fraissinière. Félix Neff, comme tous les hommes de Dieu, n'a jamais été un homme de l'institution. Pour lui, il était au-dessus des questions de dénomination et de choses comme ça. Pour lui, ce qui importait par-dessus tout, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, puis finalement le réveil qu'il avait vécu et qui avait donc éclaté là-bas, de l'autre côté de la frontière à Genève. Et c'est donc là que les choses vont commencer bien timidement dans ce petit village de Fraissinière. Après que Félix Neff ait travaillé, notamment parmi les jeunes et parmi les enfants. Or, les enfants, les jeunes, étaient souvent tellement ignorants qu'il fallait commencer par leur apprendre à écrire et à lire, n'est-ce pas ? Ils étaient incapables de lire la Bible par eux-mêmes. Et le but que se propose Félix Neff, c'est d'amener les gens à être capables de comprendre tout ce qu'ils lisent et tout ce qu'ils entendent, n'est-ce pas ? Et donc, leur donner le minimum d'instruction pour cela. Maintenant, évidemment, le fait qu'ils ne soient pas reconnus l'handicape aussi considérablement. Et là, ils se trouvent dans une situation fausse. Ils se demandent, est-ce qu'il faudrait malgré tout qu'il n'aille pas faire une faculté de théologie en Suisse ou en France, n'est-ce pas ? Bon. Et puis, il relativise cet enseignement-là, et finalement, il enseignera à relativiser vraiment la théologie. Pour lui, c'est quelque chose qui égare. Il faut faire juste le nécessaire pour être reçu aux examens, comme disions tout à l'heure, mais pas plus. Félix Neff est quelqu'un qui n'aime pas les vaines discussions. Il suit à la lettre les exhortations de l'apôtre Paul, fuit les discussions oiseuses qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Et c'est la raison pour laquelle il va entrer en conflit avec César Malan, qui est un homme beaucoup trop intransigeant, beaucoup trop sec. Félix Neff n'aime pas cette manière d'être. Et notamment, c'est l'époque où, à Genève, le réveil s'enlise un petit peu dans des discussions oiseuses, justement, sur les questions de l'élection et de la grâce. Vous savez, ça, dans les milieux réformés, c'est quelque chose qui ressurgit cycliquement. Et Neff déclare avec beaucoup d'à-propos que finalement, la liberté de l'homme et la grâce de Dieu ne sont pas des choses opposées, mais sont des choses complémentaires, et que, par conséquent, les deux vérités sont à mettre à égalité. Et alors, César Malan lui reproche, lui, de ne pas suffisamment insister sur l'élection. Et alors, il va y avoir une rupture, n'est-ce pas, entre Félix Neff et César Malan, qui va durer jusqu'à la mort de Félix Neff. Finalement, sur son lit de mort, Félix Neff se réconciliera avec César Malan. Il le fera venir, justement, pour régler la chose. Disons que il ne revient pas du tout sur ce qu'il a dit. Il pense avoir raison sur le plan doctrinal, mais il s'excuse auprès de César Malan de peut-être certaines paroles vives qu'il a pu avoir à son endroit, des choses comme ça. Et donc, il veut mourir réconcilié avec tous, notamment justement avec les frères et notamment avec celui avec lequel il restera en tension, pas vraiment une hostilité, mais enfin quand même une certaine tension pendant tout le temps de sa vie, justement à cause de ce différent doctrinal. Félix Neff a aussi une vision très large aussi. Sur l'Église romaine, il a un jugement qui me semble extrêmement intéressant, que je retiens d'ailleurs, j'ai retenu comme quelque chose d'un très véritable monde de génie. Il dit ceci: l'Église romaine est un arbre dont le cœur est sain, mais dont l'écorce est surchargée de mousse. Je trouve que c'est très très bien dit. Et de plantes parasites. Je trouve que c'est extrêmement bien dit, très, extrêmement bien vu. Mais, dit-il, l'Église réformée moderniste, donc libérale, est un arbre dont le cœur est pourri, mais dont l'écorce est encore saine. C'est très intéressant, comme c'est exactement l'inverse. Alors, il y a encore quelque chose de sain, mais pour un temps, c'est en cours de dégénérescence. Et combien il avait raison quand on voit l'Église réformée un siècle après, eh bien, un siècle, presque deux siècles maintenant d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et on se rend compte qu'il avait vu absolument juste, n'est-ce pas ? Et alors, ce qu'il dit, pour ramener l'Église romaine à la vraie foi, il n'y aurait qu'à racler l'écorce. Bon, bien sûr, évidemment, c'est vite dit, racler l'écorce, c'est pas une mince affaire, parce que l'écorce, il y en a quand même une sacrée épaisseur. Mais il avait vu juste, il n'y a pas de problème, quoi. Tandis qu'il dit, si on veut racler l'écorce des modernistes, il ne restera plus que de la poussière. Ça laisse aussi... Et finalement, quand on y réfléchit bien, personnellement, moi, je serais assez proche de sa vision. À la limite, d'ailleurs, on a vu ça, je fais une petite digression, là, quand on a vu encore le père Vernet cette semaine, on est plus proche d'un certain nombre de catholiques qui sont des hommes de foi, même vraisemblablement, si on avait l'occasion de discuter avec Jean-Paul II, qui est un homme de foi, même s'il y a beaucoup d'écorce chez lui... qu'avec des libéraux, des modernistes, avec lesquels, finalement, oui, il n'y a plus qu'une écorce, une écorce vide, n'est-ce pas ? L'écorce protestante, on est protestant parce qu'ils avaient des ancêtres protestants et que nous aussi, etc., etc. Et puis c'est fini. C'est le seul point commun qu'on a avec eux. Tandis qu'avec des catholiques, hommes de foi, même s'il y a beaucoup d'écorce, on peut discuter quand même... et entrer dans une communion fraternelle, dans une communion spirituelle vraie. Alors, Neff estime qu'il faut professer la vérité, notamment vis-à-vis de l'Église romaine, avec intransigeance. La vérité ne peut souffrir aucun compromis, mais toujours dans l'amour. C'était justement ça qui était son différend avec César Malan. Il trouvait que César Malan, bien qu'étant un homme d'une stricte orthodoxie, manquait justement de cet amour que lui, Neff, s'efforcera toujours de manifester, et selon les témoignages de ceux qui l'ont connu, qu'il a véritablement manifesté. Le 19 janvier 1828, Neff va entreprendre une grande tournée dans tous les lieux qu'il a évangélisés pour voir un petit peu où en sont les choses. Et il se réjouit de voir que le réveil continue à battre son plein. Là, pendant toute cette période qui va donc jusqu'au 31 octobre de la même année, il va tenir des réunions quotidiennes, parfois très tard le soir. Et par exemple, le 31 mars, qui est le vendredi saint, il rassemble 100 catéchumènes. Et le dimanche de Pâques, 2 avril, le réveil éclate. Le réveil éclate à fond parmi les adultes au culte du matin. Et alors, il doit improviser 2 réunions l'après-midi, dont la dernière se prolonge très, très tard dans la nuit. Et les jours suivants, il y a des réunions partout, improvisées. Les gens se rassemblent spontanément pour prier, pour lui demandant d'intervenir, pour leur parler du salut de leur âme, etc. etc. Alors, il fait venir le plus rapidement possible de nombreuses Bibles et de nouveaux Testaments, qui sont encore des denrées très rares dans ces régions-là, à cette période-là, grâce à la Société publique de Londres, qui est en train de se créer à cette période-là. Et pour vous montrer l'état de délabrement économique de toute cette région, certains mettront 2 ou 3 ans pour payer la Bible qu'ils ont achetée, certains de ceux qui ont connu le réveil à cette période-là. Et dans les jours suivants, n'est-ce pas, toute ivrognerie qui était la plaie de toutes ces régions-là a disparu. Plus de bagarres, plus de choses comme ça, n'est-ce pas ? Là, c'est vraiment la transformation de toute la région en l'espace de quelques jours. Ce qui ne veut pas dire que, même dans sa vie personnelle, Félix Neff n'est pas attaqué. Parfois, il a des combats personnels qui l'amènent à crier au Seigneur de tout son cœur. Et il est obligé de lutter dans la prière, il est obligé de chanter des cantiques pour prendre la victoire sur l'adversaire. Mais finalement, c'est une période extrêmement féconde de sa vie. À côté de l'œuvre spirituelle, il introduit aussi une œuvre sociale. Et notamment, il va prendre l'initiative creuser des canaux d'irrigation pour développer la maigre agriculture qui existe dans toutes ces régions-là. Il introduit aussi la culture de la pomme de terre, comme ça avait été le cas pour Oberlin au banc de la Roche, qui est aussi une denrée totalement inconnue dans ces pays-là, mais qui va aussi permettre aux gens de vivre beaucoup mieux et d'avoir donc de quoi manger, ce qui n'était pas toujours le cas. Lors de l'inauguration du temple de Fraissinière, Félix Neff a fait la connaissance d'un pasteur qui se nomme Antoine Blanc, et qui l'invite à se rendre au Piémont. Et donc, Félix Neff va quitter Arvieux le 6 juillet 1825 pour rendre visite aux églises vaudoises. Les églises vaudoises, à cette époque-là, sont en pleine décadence. Elles sont marquées par le libéralisme. Et Blanc, qui donc a vu que Félix Neff avait un don du Seigneur manifeste pour justement réveiller les consciences, pense qu'il peut faire beaucoup de bien aux églises vaudoises. Et donc Antoine Blanc a préparé la venue de Neff déjà dans les églises vaudoises, et Félix Neff arrive donc dans ces églises comme s'il était le Messie en personne. Alors il arrive le premier dimanche. Alors les anciens veulent lui dire: bon, écoutez, soyez bref dans votre prédication, parce que aujourd'hui il y a un concours de tir et un bal qui suit. Alors il faudrait pas que le culte empiète sur les choses importantes, en quelque sorte. Bon, il y aura ni concours de tir ni bal ce jour-là, parce que la prédication de Félix Neff est tellement percutante que les gens de la ville n'ont plus envie ensuite d'aller rigoler au tir ni au bal. Ils sont trop bouleversés sur la question du salut de leur âme. Et la prédication, le texte que de Félix Neff est celui-ci: celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il leur prêche là-dessus pendant longtemps, n'est-ce pas? Et alors le réveil éclate. Malheureusement, un certain nombre de pasteurs ne sont pas tellement satisfaits de la prédication de Félix Neff. C'est le cas notamment du pasteur Mondon. Et Félix Neff se rend compte que ce pasteur, comme d'autres d'ailleurs, non seulement n'ont jamais été convertis, mais n'ont jamais rencontré quelqu'un qui était véritablement converti. Et pour lui, il est véritablement catastrophé. D'autre part, Félix Neff a des ennuis avec les autorités, qui décident de l'arrêter et d'arrêter tous les pasteurs qui l'ont reçu. Alors il est obligé de s'en aller, quitter le pays à toute vitesse, mais malgré tout, le réveil est commencé, et le réveil va se poursuivre dans ces églises vaudoises, en tout cas pendant un certain temps. Félix Neff revient donc dans les Hautes-Alpes, et là... Il va continuer son ministère auprès de catholiques, et notamment de jeunes prêtres. C'est ça qui est extraordinaire. Or, dans les Alpes, les prêtres qu'on y envoie sont des curés de choc, comme on dirait aujourd'hui, qui sortent des écoles jésuites, qui sont fanatisés, n'est-ce pas, et qui sont en principe très fermés au message de... En janvier 1826 jusqu'en juin 1827, Félix Neff va entrer en contact avec les prêtres de ces catholiques convertis. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ces prêtres-là vont sinon se convertir, du moins un certain nombre d'entre eux peut-être le feront, mais en tout cas ne lui seront pas hostiles. Et il aura des contacts extrêmement fraternels, extrêmement bons avec ces prêtres-là, discutant avec eux à fond de l'Évangile. C'est en 1826 qu'il commence à éprouver les premiers maux qui vont l'emporter, n'est-ce pas, les douleurs à l'estomac dues aux privations qui sont les siennes essentiellement, et qui vont dégénérer en cancer, qui va finalement avoir raison de lui. Il se rend cette même année à Annemasse, qui est une commune où il y a une grande incrédulité, et donc il part en mule le 27 avril, après avoir fait ses adieux à la petite ville de Dormihouse. Le réveil se poursuit dans cette région, notamment parmi les catholiques, et donc pendant tout ce temps-là, Félix Neff n'a pris absolument aucun temps de repos, il est toujours sur la brèche, mais quand il arrive à Annemasse, là, il ne peut plus rien faire, il souffre trop, n'est-ce pas, il est obligé de s'arrêter. Et il se rend donc en Suisse pour se reposer, il est obligé. Pendant 2 mois, il se rend à Genève, où il reprend des forces, ce qui lui permet de prêcher dans les environs de Genève, notamment à Nyon, petite ville de Nyon. Et alors là, il commence à avoir autour de lui des aides. Il se comprend qu'il ne peut plus faire seul, qu'il doit malheureusement envoyer à la faculté de théologie pour avoir un diplôme, comme il l'a fait, en leur rappelant qu'ils ne sont là que pour ça. Là, quelques-uns de ses amis l'exhortent quand même à se ménager, en disant que là, il a trop tiré sur la corde. Et il envoie donc quelques-uns de ses jeunes, notamment un certain Jean Rosland, à Montauban, à la faculté de théologie de Montauban, qui existe encore à cette époque-là, parce que c'est elle qui est encore la moins touchée par le libéralisme, en quelque sorte. Et en lui disant qu'il fasse vite parce que le réveil brûle dans les montagnes et qu'on a besoin, on a besoin de gens pour le soutenir et pour l'aider. Quel était le message que prêchait Félix Neff ? C'était un christianisme expérimental, pratique et non pas théorique. Il était contre toutes les étroitesses, contre les exclusions ecclésiastiques, l'esprit de chapelle, de dénomination, de secte. Pour lui, ces querelles byzantines, il appelait ça, prenant le texte de l'Évangile, filtrer le moucheron et avaler le chameau. C'est vrai, c'est souvent cela. Il y a une très très grande sincérité chez Félix Neff. Nous avons vu qu'un des traits de son caractère, c'était une totale droiture. Il sera toujours extrêmement, extrêmement droit vis-à-vis de tout le monde. Et donc, à la fin du mois de mai, il revient à Fraissinière. Après être passé à Plombières pour y faire une cure, une cure thermale, pendant le temps où il était donc à Plombières, pour cette cure thermale, où il était assez mal en point de vue santé, il fait la connaissance de la femme du préfet. Et la femme du préfet, au contact de Félix Neff, se convertit. Et alors, elle est protestante d'origine, mais là, elle fait une expérience véritable avec le Seigneur. Et elle dit, mais vous devriez faire des réunions ici à Plombières. Et finalement, comme elle est femme du préfet, elle lui trouve un local où il peut prêcher l'Évangile tous les dimanches avec des salles pleines pendant tout le temps qu'il est là-bas. Bon, il est en principe là pour se soigner, mais finalement, en fait, de se reposer, il se consacre totalement à cette œuvre et bien loin de s'améliorer, son état empire. Alors, le 29 octobre, il se rend dans les Vosges pour un autre séjour de repos dans une ville d'eau aussi pour essayer de soulager ses maux. Il souffre horriblement de l'estomac, c'est pas, il est déjà dévoré par le cancer et il a des périodes où il est totalement inactif. Dès que ça va mieux, eh bien, aussitôt, il tient pas en place. Il se remet au travail, il se remet à l'œuvre. En 1829, son état empire véritablement, et là, Félix Neff envisage la fin de la course. Il se rend compte que là, éventuellement, si le Seigneur ne le guérit pas, bien, il va partir avec lui. Alors, il fait venir son ami Émile Gers, et puis donc là, il a un entretien spirituel profond, lui demandant de, il confesse ses péchés, il lui demande de prier pour lui, etc. Et puis il fait venir César Malan, avec lequel donc il était en froid, comme nous l'avons vu. Et là, donc il lui demande pardon, d'avoir eu des paroles vives, etc. Et alors César Malan revient sur la question doctrinale. Ils ont une longue discussion doctrinale. Et Félix Neff refuse de céder sur la doctrine. Il dit non, j'ai eu des torts avec vous sur le plan. J'ai eu parfois même des mauvais sentiments envers vous, mais sur le plan doctrinal, je maintiens le fait. Et finalement, donc, l'entrevue tourne un peu court, mais Félix Neff est soulagé. Il a fait ce qu'il avait à faire, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bon, Malan a refusé un peu la main tendue, c'est son problème. Mais Félix Neff lui a tendu la main. Ce qui inquiète le plus Félix Neff, c'est le problème de sa mère. C'est pas sa mère qui va rester seule, etc. Et c'est quelque chose qui le tourmente. C'est finalement son seul regret quand le 12 avril, à l'âge de 29 ans, il meurt, il part avec le Seigneur. Ils ont laissé une œuvre, n'est-ce pas, impressionnante derrière lui, évidemment. Trop courte, hélas. Et certain que s'il avait vécu beaucoup plus, eh bien, Dieu seul sait ce qu'il aurait pu faire, quoi. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur ce réveil de ces vallées des Hautes-Alpes. Est-ce que vous avez des questions à poser sur...